franceinter.fr.
Alors, je me suis laissé dire, Alain Baraton, que les artistes ne sont pas toujours reconnus de leur vivant.
Eh oui, contrairement aux scientifiques, qui sont généralement appréciés pour la qualité de leurs travaux, même si certains de leurs mérites ne sont découverts qu'après leur mort. Galilée en est un exemple parmi d'autres.
Et un autre, alors, c'est Monsieur Gerber, c'est ça?
Ah oui, Trogoth Gerber.
Oui, Trogoth. Alors, Trogoth, il a connu la notoriété, mais en Allemagne,
oui,
pas en France.
Oui, tout à fait. Et il suffit pour s'en convaincre d'aller sur Internet et de taper son nom. Les sites qui évoquent ce scientifique sont le plus souvent allemands. C'est normal, notre homme est né dans ce pays, parfois anglais, russe ou finlandais, mais français, je n'en ai trouvé que quelques-uns, et encore, il a fallu que je cherche longtemps.
Donc ça, c'était la petite introduction dont on se demande ce qu'elle a à voir avec le Schmilblick. Qui est donc cet illustre inconnu?
Eh bien, nous y arrivons. Trogoth Gerber est né le 16 janvier 1710,
bon,
à 20 ans.
Okay.
Il étudie la médecine
et
la botanique.
Allons plus vite.
Non, mais pas du tout. Il étudie la médecine et la botanique à l'université de Leipzig. Son doctorat en poche, il part en 1735 s'établir en Russie. En Russie, on peut le retrouver très certainement. Ses compétences sont appréciées et le voilà nommé directeur des jardins botaniques de Moscou.
Ah ben nous y voilà.
Il se déplace beaucoup et parcourt le pays à la recherche des plantes les plus belles et les plus rares et celles qui peuvent avoir de l'intérêt en médecine. En 1742, et bien qu'il soit allemand, il accompagne l'armée russe en Finlande. Il continue encore et toujours à herboriser. Enfin, il publie des travaux qui aujourd'hui encore sont étudiés, mais il s'éteint l'année suivante, il n'avait que 33 ans.
Et alors là, je vous vois venir, coquin de Baraton, son nom est cité des milliers de fois partout dans le monde.
Eh oui, en 1738, un petit retour en arrière,
parce qu'il faut
comprendre l'origine du problème. En 1738, disais-je...
Si j'avais un problème de plomberie, je ne vous appellerai pas, parce que ça peut continuer à couler le temps que vous trouviez l'origine du problème.
Je vous rappelle que quand vous avez un problème de plomberie, c'est donc un problème de fuite, et avant de réparer la fuite, encore faut-il savoir d'où vient la fuite.
Oui, enfin en général, voilà. Il faut déjà colmater la fuite avant de trouver l'origine.
Peut-être. En 1738, disais-je, les Européens découvrent une petite plante originaire de Madagascar, d'Afrique du Sud, d'Indonésie et du Pérou. Sa fleur est très belle et ressemble à une marguerite et il en existe de toutes les couleurs. Pour remercier Trogoth Gerber d'avoir si bien œuvré en faveur de la botanique, Carl von Linné, le génial scientifique suédois, décide de baptiser une plante Gerbera.
Gerbera, non,
oui,
on dit
Gerbera. Gerbera, donc Gerbera.
On dit Gerbera, non?
Eh oui, et le Gerbera, qui est aujourd'hui, et Pierre Veil le sait, l'une des fleurs les plus vendues au monde.
Oui, il m'en offre toutes les semaines.
Oui, eh bien oui, parce que parmi les fleurs les plus vendues, vous avez dans l'ordre les roses, les œillets, les chrysanthèmes, les tulipes et les Gerbera. Et c'est ça la magie de la botanique, c'est qu'on est capable d'avoir une notoriété posthume grâce au nom des fleurs.
Et vous imaginez, il y aura une fleur qui portera votre nom.
Et avouez que ça aurait de l'allure.
Ça aurait certainement de l'allure, mais on ne sera plus là pour le voir.
La Baratonia.
La Baratonia.
Eh ben oui.
Ah, la Baratonia, c'est
une
très
fleur,
bien, François Régis, vous avez raison.
Oui, qui est un peu source d'urticaire parfois.
Elle pourrait ressembler à quoi, la Baratonia?
Oh,
je suis sûre qu'elle aurait des grosses épines, ça c'est sûr.
Et un gros cœur.
Mon clivia me semble bien à l'étroit dans son pot, quand faut-il le rempoter, vous demande Félix.
Ben, il faut réfléchir, le clivia, vous connaissez cette plante, elle a des grandes feuilles que cuirassées, je dirais épaisses, et des fleurs semblables le plus souvent à des clochettes oranges. On voit cette plante en appartement. Eh bien, le clivia se plaît à l'étroit. Donc, avant d'envisager de le rempoter, il faut réfléchir, parce que cette plante, justement, déteste avoir trop de place pour les racines. Si vous mettez le clivia dans un pot trop grand, que fait-il? Eh bien, il va développer ses racines au détriment des fleurs. Or, une plante dite fleurie a de l'intérêt pour sa floraison plutôt que pour ses racines. Comment faire pour savoir si la plante est à l'étroit ou pas? Eh bien, quand la floraison a tendance à diminuer en beauté, en intensité et en grosseur, alors il est temps de le rempoter. Mais attention, dans un pot à peine plus grand que dans celui dans lequel il poussait.
On ne peut jamais faire l'inverse, c'est-à-dire prendre d'un plus grand, aller vers un plus petit, ça il ne faut jamais faire.
Ça, on peut, mais c'est surtout un problème là d'ordre psychiatrique, parce que généralement...
D'accord.
Ben oui, parce que généralement quand on rempote...
On pourrait dire, si ma plante est dans un pot trop grand,
ben,
et
si on
je voudrais
déménage,
redonner
par exemple.
De la vigueur
oui, non, mais on peut bien
fleurs,
sûr le faire,
par exemple.
Mais ça n'a pas de sens, généralement une
mais
plante...
Mais je ne sais pas, je vous pose la question,
non,
c'est
vous
pas
répondre.
Complètement...
Une plante, comme vous le savez, est un être vivant. Un être vivant qui va donc se développer avec les années, les tiges, les feuilles, les racines prennent davantage de place. Pourquoi voulez-vous, quand une plante a pris le temps de bien croître, trouver le moment justement de lui réduire son espace? Donc non, généralement, on peut rempoter dans un pot plus grand à partir
jamais
du moment
dans
où
le,
on
réduit, sens,
si
d'accord.
On peut, mais c'est quand même un traumatisme pour le végétal.
Est-ce le bon moment pour tailler une haie de thuya, vous demande Claude?
Moyennement, pour deux raisons. La première, je dis souvent qu'on ne taille pas par temps de gel, il ne gèle peut-être pas en ce moment et pas partout, mais ce n'est pas très bon. Deuxièmement, quand on taille une haie, c'est pour lui donner une apparence esthétique. Le thuya a cessé de croître en automne. Pourquoi avoir attendu l'automne ? Enfin, maintenant, il aurait fallu le tailler à la fin de l'automne. Mais surtout au début du printemps, il va redémarrer. Ce qui veut dire que si on le taille maintenant, dès le mois d'avril, on va avoir un petit côté flou, à moins qu'on veuille une haie qui ne soit pas trop structurée, mais un petit peu flou. Si tel est le cas, oui, on peut tailler la haie de thuya maintenant, sinon il est conseillé d'attendre mars-avril.
Oui, en pleine période de nidification, ce qui n'est pas recommandé.
Et je le dis souvent sur cette antenne, avant de balancer les cisailles et surtout les engins à moteur ou électrique, on regarde toujours s'il y a des petits oiseaux. L'occasion également de rappeler qu'il est strictement interdit d'abattre des arbres en période de nidification. Donc quand un arbre est menacé dans une ville et que les services techniques ont l'intention de le couper, discrètement et de nuit, mettez-y un nid avant qu'il se rende compte du subterfuge. On aurait gagné quelques jours.
Et puis si on a le choix, on prend de choses que des thuyas. C'est laid, les thuyas.
Oui, mais c'est la première plante introduite du continent américain parce qu'elle a été ramenée en 1495. Mais saviez-vous que le premier thuya a été planté dans les jardins du château de Fontainebleau et que François Ier, en découvrant cet arbre, avait trouvé incroyable qu'une plante puisse traverser l'Atlantique. Il l'avait appelé arbre de vie. Et en Amérique, les Indiens appelaient la plante, là encore, arbre de vie parce qu'elle reste verte toute l'année. Comme quoi, de temps en temps, sans se communiquer, sans avoir pris le temps de communiquer, on peut donner la même appellation à une plante à des milliers de kilomètres.
Est-il encore temps de déplacer un lilas ? Vous me répondez par oui ou par non. Enfin, vous répondez à Marc. Plutôt.
Alors, on va être très clair. Les questions vont arriver. Est-il encore le temps de déplacer ? Est-il encore le temps de planter ? Oui, on a jusqu'à fin mars pour planter, déplacer, transplanter.
Vous avez un livre à nous conseiller ?
Niwaki et jardin japonais de Frédéric Dumas. C'est tout simplement créer des reflets de nature. Comment créer un jardin dans l'esprit japonais ? C'est publié aux éditions Erol.
Il est temps que ça s'arrête parce qu'il s'étrangle. 28 euros. Très bien.